soir, nous allons poursuivre notre école d'oraison. Et alors, nous rentrons dans une deuxième phase, dans une phase, on va dire, d'approfondissement. On a vu les fondamentaux, et nous allons approfondir en reprenant quelques points, on va dire avec Jésus. Ça sera la première partie de mon petit topo. Et puis, en commençant une série de figures bibliques pour nous aider à approfondir notre relation à Dieu, à approfondir notre compréhension et notre pratique aussi de l'oraison. En fait, on commence par Jésus, on va dire que c'est la première figure biblique qui me permet de faire quelques rappels, et puis on commencera, on verra, selon l'heure qu'il est, avec Abraham, puis on continuera avec Moïse, avec David, avec Salomon. Voilà. On en prendra deux, je pense, à chaque séance jusqu'en juin, étant donné qu'on n'en a pas en avril, je crois, je ne sais plus. Oui, mais ça, je vous dirai à la fin. Mais il y a peut-être un problème de date. Voilà. Alors, Jésus-Christ est notre maître de prière. C'est lui qui récapitule l'Écriture, et on peut dire que toute l'Écriture est une école d'oraison. Cette parole nous est donnée, Dieu nous parle, pour que nous entrions en relation avec lui. Voilà. Et vous vous souvenez de la définition de sainte Thérèse d'Avila, l'oraison n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se fait aimer. Voilà. Donc l'oraison est une prière personnelle. Et là, je ne sais pas si j'ai insisté, prière personnelle ne veut pas dire prière individuelle. La prière personnelle ne nous isole pas du reste de nos frères, mais elle nous fait entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, et en entrant dans ce cœur à cœur avec Dieu, nous y entrons aussi en communion avec tous ceux avec qui nous sommes en relation. Et nous entrons dans un contact transformant. Dieu se communique à nous, et nous sommes ainsi façonnés par lui, et nous grandissons dans sa connaissance, comme dans une relation d'amitié. Et nous avons reçu comme baptisés de Dieu, pour entrer en relation avec lui, la foi, l'espérance et la charité comme vertu théologale qui nous donne de l'atteindre. Et le baptême nous a déjà d'une certaine manière transformé et rendu apte à cette relation. Par le baptême, il est déjà intervenu en notre faveur. On peut dire encore que l'oraison est à la fois une préparation et un prolongement de l'Eucharistie, du don d'amour de Jésus lorsqu'il se donne à nous dans le sacrement de l'Eucharistie, ceci est mon corps livré pour toi. Et il y a là, bien sûr, dans l'Eucharistie, dans ce prolongement et dans cette préparation de l'Eucharistie, le cœur de notre vie chrétienne, et c'est pourquoi les papes et les pasteurs ne cessent de nous inviter, de nous ancrer dans notre foi chrétienne, dans la prière. Jean-Paul II a écrit une très belle lettre au moment d'entrer dans le deuxième millénaire, Novo Millennio in Eunte. Et il dit, je le cite, « Il faut un christianisme qui se distingue avant tout par l'art de la prière. » Alors Jésus-Christ, Fils dans le Fils unique, s'il nous est donné d'avoir une relation filiale avec Dieu, avec le Père, s'il nous est donné d'être enfants de Dieu, c'est nous le sommes par notre communion, par notre agrégation au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Et l'origine de notre salut, comme l'origine de notre foi, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'est un point fondamental, et c'est lui, ce Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui nous y introduit dans l'Esprit. L'esprit qui fait la communion des personnes divines fait aussi la communion entre les personnes que nous sommes et la communion entre les personnes que nous sommes et Dieu. Alors si l'oraison c'est une prière filiale, eh bien évidemment Jésus est le maître indispensable, le vrai modèle. Alors on le voit plusieurs fois dans l'évangile prier et nous entraîner dans la prière. Il invite ses disciples à se retirer dans la prière. Et finalement, en priant et en nous invitant à prier, il nous donne d'entrer dans sa propre relation avec le Père. Lorsque ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier » et qu'il leur donne cette demande du « Notre Père », c'est bien ses mots à lui, c'est bien lui qui peut s'adresser à Dieu véritablement comme un Père qui nous communique. Et il nous donne d'entrer dans sa prière. Nous y entrons par la foi. On a vu ça. Ça, c'est le cœur de cette prière. Ce qui nous unit au Christ, c'est la foi. Et la foi, c'est pas simplement un énoncé, le credo, mais c'est aussi un acte. Lorsque les Hébreux, par exemple, croient avec Moïse, bien, ils partent. Voilà. Moïse exécute l'ordre divin et il passe la mer Rouge à pied sec. Vous voyez, c'est pas simplement le fait de le dire, de penser, la foi nous donne d'agir. Et dans la foi, on prie, on obéit, et en fait, on se soumet à la parole qu'on entend. On cherche à la comprendre, on cherche à y adhérer, et on cherche à agir selon elle. Et ainsi, l'oraison est cette réponse à la parole de Dieu, un acte de l'intelligence et de la volonté par lequel on adhère à Dieu. Dans l'évangile, Jésus à plusieurs reprises dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ». Et on voit Jésus communier à cette volonté de son Père, obéir et d'une certaine manière croire ou exercer sa foi, voyez dans ce sens. C'est un peu ce que nous recherchons quand nous faisons oraison. Si nous entrons en relation avec lui, c'est bien pour faire ce qu'il nous appelle à faire, c'est bien pour entrer en communion avec lui, parce que nous croyons que c'est lui qui nous donne la plénitude de ce que nous sommes. Et nous cherchons du coup à faire sa volonté, comme Jésus. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous entrions dans cet échange d'amour qu'il vit en lui-même, en cherchant à accomplir sa volonté. On ne cherche pas à faire telle ou telle chose, mais on cherche essentiellement à vivre de l'amour dont il vit lui-même et dont il nous invite à vivre. Ça, c'est assez important de ne pas oublier cette foi comme adhésion, bien sûr comme adhésion communion au Seigneur, mais aussi comme adhésion à sa volonté, à son vouloir. Il y a un acte dans l'acte de foi, il y a une soumission à Dieu qui a l'initiative par sa parole, à Dieu qui a l'initiative. On a parlé de la grâce prévenante en nous, c'est lui qui agit le premier pour qu'on entre en relation avec lui. Et donc, comme des enfants, nous avons à reconnaître cette première place de Dieu et à vouloir nous y soumettre dans l'amour, parce que nous savons bien qu'en nous y soumettant, nous ne nous rabaissons pas, mais au contraire, nous lui donnons à lui de nous élever comme lui, puisque tel est son désir. Mais c'est lui qui peut le faire, c'est pas nous. On le verra avec l'appel d'Abraham qui vient dans la Genèse juste après la tour de Babel, où les hommes, justement, par eux-mêmes, veulent accéder et ils voient ce qui leur arrive. Alors, la foi qui est à la fois une certitude et en même temps une obscurité. À chaque fois que Jésus va poser un acte important et on le voit justement se retirer pour prier, vivre ce temps de... On dirait comme une concentration, on le voit se concentrer, vous voyez, avant d'appeler ses disciples, il monte sur la montagne. On le voit au début de son ministère public, au désert, être tenté par le démon, alors qu'il va s'engager à obéir à la volonté de son Père, il va être tenté par le démon. Il y a dans cette prière de raison et dans l'exercice de notre foi un combat. Saint Nicolas de Flux, ce grand saint suisse, dit à la prière on va quelquefois comme à la guerre. Mais il reprend saint Paul, hein, luttez, combattez avec moi dans la prière, dans la lettre aux Romains, au chapitre 15. Et voilà, ou sainte Thérèse d'Avila qui dit que l'oraison n'est pas faite pour les âmes molles. Voilà. Et où elle dit, mes filles, soyez viriles. Enfin, elle a toutes sortes d'expressions dans la foi. Hein. C'est pas pour nous faire peur, mais pour nous encourager. On y est bien engagé lorsqu'on commence à faire oraison dans ce combat. Et la manière dont Jésus combat, hein, lorsqu'on le regarde dans ce temps au désert, hein, c'était l'évangile du premier dimanche de carême, dans ce temps au désert, il est tenté par le démon qui déforme la parole de Dieu et voilà, il va déjouer chaque tentation en recitant la parole de Dieu exactement. Et ça pour nous, ça doit être une ligne directrice. Il ne s'agit pas, lorsqu'on fait oraison, de faire une méditation de la parole de Dieu, mais lorsque nous sommes tentés, éloignés, que nous quittons la présence de celui devant lequel nous nous tenons, eh bien, revenons à la parole en elle-même. Ou alors, lorsque nous avons filé tel ou tel verset qu'on avait pris pour démarrer notre prière, peut-être revenons à la brutalité, si je puis dire, à la matière première qui est cette parole en elle-même. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que fait Jésus pour éloigner le démon. Et il fait pas une démonstration de puissance, il fait pas, et c'est pas le moment là de chasser le démon comme il l'a fait ensuite dans sa vie publique, mais simplement le ramener devant enfin, il nous manifeste ainsi la force et la puissance de la parole de Dieu. La certitude qui nous est donnée par la foi de toucher Dieu, elle est bien obscure, et comme le dit la lettre aux Hébreux, la foi a pour objet des choses non apparentes. Et c'est ce qui fait qu'il y a une difficulté, voilà. Et dans notre foi, qui justement a pour objet des choses qu'on ne voit pas, nous avons différents appuis. Nous avons cette parole de Dieu, mais nous avons aussi le témoignage, par exemple, de ceux qui nous l'ont porté, ou des exemples de son efficacité, des signes sur lesquels nous nous appuyons. Et plus nous entrons dans la prière d'oraison, dans l'exercice de cette foi, plus cette foi va être purifiée, va perdre ses appuis sensibles. Car l'acte de foi pur, justement, il n'est plus appuyé sur ses témoins ou sur ses consolations, mais il s'appuie sur le fait qu'il ne voit pas, il s'appuie sur Dieu lui-même. Et donc on peut même se demander si on ne perd pas la foi lorsqu'on ne voit plus rien, lorsqu'on ne sent plus rien et qu'on décide de prier, mais que finalement on se demande bien pourquoi on prie. On en a un petit peu parlé. Et maintenant nous suivons Jésus. Voilà. Nous suivons Jésus jusqu'à la croix. Et Jésus, à Gethsémani, son acte de foi, ou alors, mais Abraham, qu'on va regarder tout à l'heure, leur acte de foi à tous les deux, c'est de croire que Dieu a pris à pouvoir agir même pendant et après la mort. Alors Jésus, il a cru en la confiance de son Père, alors même qu'il allait être mis à mort, bien lui en a pris. Et Abraham, on verra tout à l'heure, il a cru que Dieu demeurait fidèle à ses promesses, lui qui lui a dit qu'il aurait une longue descendance d'Isaac et pas d'un autre. Il a cru, alors qu'il était prêt à offrir son fils en sacrifice, que Dieu pouvait quand même donner une descendance à Isaac, alors qu'il allait immoler son fils. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, et qu'on a chez Abraham un acte de foi par avance en la résurrection. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Il avait bien entendu que Dieu lui donnerait une descendance. Voilà jusqu'où peut aller la foi. On voit la difficulté. Foi de Marie, qui au pied de la croix, demeure debout dans cette attitude, voilà, la vivante, qui demeure voilà, en communion avec le Père et en confiance avec lui, alors même qu'elle voit celui dont il lui a été annoncé qu'il serait le Messie mourir. Toute la vie de Jésus n'a été qu'une perpétuelle oraison, dit Saint Jean Eudes. Alors, il y a le pèlerinage à Jérusalem avec sa famille, il y a le baptême qui nous révèle ce dialogue où Dieu, la voix de Dieu se fait entendre, du Père se fait entendre, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, les tentations au désert où on voit sa foi en acte, on voit la synagogue le jour du sabbat, on le voit prier lorsqu'il choisit les 12, on le voit prier seul avant d'interroger les disciples en leur demandant pour vous, qui dites-vous que je suis, ou encore à la transfiguration, où il est en relation avec Moïse et Élie dans la lumière divine, ou au retour de la mission des 72 disciples, où il exalte, il tressaille de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, lorsque les 72 reviennent et partagent finalement les fruits de la mission, il se réjouit de voir à l'œuvre la volonté du Père, ou alors quand il donne le Notre Père, ou quand il prie l'Eucharistie, bref, ou encore quand il annonce à Pierre son reniement et qu'il lui dit « Je prie pour toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ». Toute l'agonie, évidemment, et encore la dernière prière de Jésus sur la croix, où il cite le psaume « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Toute la vie de Jésus est une vie de communion au Père, et notre oraison est un... Alors on voit d'ailleurs dans la vie de Jésus ces moments de contact privilégiés, mais il n'y a pas que ces moments, il a aussi consolé les sœurs de Lazare, il a aussi... il a fait d'autres choses, quoi. Il a marché, il a mangé. Et comme nous, cette oraison qui nous met en contact avec Dieu, et cet exercice qui nous permet de faire de notre vie ce grand acte de foi, ce grand acte d'obéissance au Père qui nous appelle, chacun selon ce que nous sommes, à participer à sa mission de salut. Marie, elle, gardait fidèlement tous ces événements, toutes ces paroles dans son cœur. C'est une autre manière de nous parler de l'oraison. Sa communion au Christ consistait à emmagasiner, à garder fidèlement, au plus profond d'elle-même, ce que vivait Jésus. Et elle le méditait, elle le digérait. Alors à l'école de Marie, fille d'Israël, je vous invite donc à reprendre des figures de l'Ancien Testament. Car si Jésus est notre maître de prière, si c'est en lui que nous prions, comme fils dans le Fils unique, nous apprenons à connaître Dieu toujours davantage en lui et par lui, Jésus, mais ce Jésus, il a été annoncé. Il a été annoncé, il est entré dans notre histoire, à la suite d'un temps de préparation et qui a commencé par la création de l'homme et la femme, on pourrait dire, mais qui a commencé de manière explicite avec Abraham. Et s'il accomplit toutes les paroles de la loi, des prophètes et des psaumes, comme il nous dit à la fin de l'évangile de Luc, après cette rencontre avec les disciples d'Emmaüs, c'est bien que toutes ces figures qui le précèdent l'annonce et disent quelque chose de lui. Et le cardinal Lustiger aimait dire que la parole de Dieu devienne, la parole de Dieu dans son ensemble, notre langue maternelle qu'elle inspire notre cœur et que cette familiarité avec Dieu qui nous parle devienne le cœur même de notre vie. C'est une autre manière de nous inviter, comme Marie, à garder tous ces événements et à les méditer dans notre cœur. Alors, Abraham. Donc, comme je vous le faisais remarquer, Abraham, il en est question dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Mais au chapitre 11, il y a ce passage de la tour de Babel, où les hommes se dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux, faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Autrement dit, donnons-nous nous-mêmes Dieu. L'accès aux cieux, c'est ça, où nous donnons-nous un nom, le nom, celui qui donne l'identité, celui qui est l'être même, c'est bien Dieu. Et le nom d'Abraham est évoqué juste après cet épisode dans la descendance de Sem après le déluge. Et là, on découvre un certain Nahor qui engendre un certain Terah et qui lui-même engendre des fils et des filles, dont Abraham, dont la femme s'appelait Sarah. Et Sarah était stérile, n'avait pas d'enfant. On va dire que ça, c'est ce qui concerne l'ancien monde, voyez. Le monde avant que Dieu intervienne. Voilà les éléments qu'on a. Voilà. Après, c'est tout autre chose. Après, Dieu parle. Au chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. » Irruption de la parole de Dieu à Abraham. Là, c'est un petit peu le début de... C'est ça qui est à la source de la prière. C'est cette intervention, cette irruption de la parole de Dieu dans notre vie. Alors qu'on en est conscient ou pas de cet événement, il a eu lieu, forcément. Et on est vraiment dans une réponse. Et cette oraison, comme la vie, qui est une marche, c'est une démarche qui consiste à aller à la rencontre de Dieu qui est présent au plus intime de nous-mêmes. Et bien cette démarche demande une confiance absolue et qui n'est pas une démarche absolue et qui n'est pas plus explicitée, vous voyez, que pour Abraham, et elle exige le détachement par celui qui nous appelle, et par la foi, voilà, il nous est donné d'y répondre. Mais vous voyez, il y a un caractère assez, en tout cas qu'on voit dans la vie d'Abraham, radical. Voilà. Il y a une intervention de Dieu, et voilà, il nous est donné ou pas d'y répondre, mais quand je dis ou pas d'y répondre, nous croyons que Dieu nous donne cette possibilité. Le ou pas vient de nous, de notre consentement ou non. Le mot foi n'est pas présent dans le récit. C'est saint Paul ou la lettre aux Hébreux qui parleront de la foi d'Abraham. Mais, comme je vous faisais remarquer, la foi c'est un acte. Et Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur. C'est ainsi qu'on voit l'expression de la foi d'Abraham. Son obéissance se déploie. Voilà. Et nous prouve, un, qu'il a écouté la parole de Dieu, et deux, qu'il y consent. Et on va le voir, tout au long du chemin, bâtir des autels, invoquer le nom du Seigneur, littéralement le crier, le nom du Seigneur. Voilà. Ces autels, autant de lieux de mémoire de la parole qu'il a entendue. Et ainsi, Abraham rencontre Dieu sur sa route de nomade, il la poursuit, mais vous voyez, elle n'est pas à la suite de la recherche de pâturage ou d'accroissement du patrimoine de la tribu, mais là il se laisse désormais conduire par Dieu, qui lui fait quand même une promesse incroyable, un grand peuple, il sera une bénédiction, et puis surtout c'est donc cette terre, enfin cette postérité à jamais et cette terre. Voilà. Il y a donc dans l'appel à aller à la rencontre du Seigneur une promesse du Seigneur. On n'avance pas pour rien. Et dans cet exercice de foi, dans sa difficulté, il y a quand même quelque chose à la clé, qui est immense. En fait, nous savons depuis Jésus que c'est Dieu lui-même qui était figuré par, dans la promesse faite à Abraham, par cette postérité sans nombre, plus nombreuse que les étoiles du ciel, par cette terre, c'est bien précisément la communion avec tout être, avec tout homme, qui est réalisée en Dieu. C'est pas ce que nous donne la relation avec le Seigneur. Abraham n'est pas parfait. Ça, bon, ça, en général, on n'a pas oublié qu'on n'était pas parfait, mais en tout cas, on le voit, Abraham qui rentre et qui se détermine en répondant à l'appel de Dieu, on va le voir, par exemple, au chapitre 12, jouer sur le fait que, en fait, Sarah était sa demi-sœur. Si mes souvenirs sont bons. Et du coup, quand il va arriver en Égypte, les officiers de Pharaon vont voir Sarah, ça va plutôt bien se passer, et donc du coup, Abraham va demander à Sarah de dire aux officiers qu'il est son frère, pour pas qu'il soit un concurrent pour eux, vous voyez. Et il veut feinter sur ce jeu. Voilà, bon, c'est un exemple. Dis, je te prie, dit-il au chapitre 12, verset 13, dis, je te prie que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. Voilà. Donc ces figures bibliques qu'on va prendre ne sont pas des hommes et des femmes parfaites. Parce que l'Écriture, ou la parole de Dieu, nous prend là où nous en sommes et la rencontre avec Dieu nous purifie dans nos relations avec nos frères, dans notre relation avec Dieu, mais elle nous prend là où on est. Voilà. Et ensuite, on va voir voilà, tout au long du chemin d'Abraham, toute cette purification dans la relation d'Abraham avec Dieu, qui va le rendre capable de Dieu, et on va le voir même un peu plus loin, négocier même avec Dieu. Voilà. Tellement, voilà, ils vont goûter une proximité. Voilà. Alors, Abraham va se demander comment se réalisera cette promesse qui lui est faite d'une postérité alors que justement il n'a pas d'enfant. Et Dieu va lui répondre, il va poser la question, un peu comme Marie, il va soulever l'objection, comment cela va-t-il se faire? Et on va voir petit à petit Abraham se conformer à cette volonté de Dieu alors même que humainement il ne peut pas voir comment cela va se faire. Et Dieu va l'inviter, vous savez, à partager des animaux, à faire un sacrifice. Et Abraham va le faire, que Dieu va agréer en signe d'une action. Et un sommeil mystérieux va tomber sur Abraham, tel qu'il en est tombé un sur Adam, au moment de la création d'Ève, dans le deuxième récit de la création, et c'est une manière de nous montrer pour le récit de la Genèse cette action unique et seule de Dieu. C'est Dieu qui s'engage seul dans cette qui prend totalement les commandes, si vous voulez, dans cette alliance entre Abraham et Dieu. Et on pourrait comparer ça dans notre expérience de prière comme l'aveuglement de la lumière divine qui nous place dans cette obscurité ou dans la nuit de la foi. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dépasse et pourtant en contact avec lequel nous sommes, c'est Dieu. Et voilà, c'est cette nuit obscure que va décrire si bien Jean de la Croix, qui est provoquée par cette initiative et action unique de Dieu qui apprend les commandes de notre, oui, qui prend les commandes dans notre relation avec lui, quoi. Si nous croyons que c'est nous qui décidons à tel moment d'entrer en union avec lui, il va aussi parfois nous surprendre, soit dans cette prière qu'on a décidée nous-mêmes, soit où littéralement en nous prenant à tel ou tel moment, en nous condamnant à ce moment à un moment de foi, à un moment de communion avec lui. Alors on peut prendre un peu de poésie pour la décrire. Avec Saint Jean de la Croix dans le Cantique, des Cantiques à la première strophe, à l'ombre d'une nuit obscure, d'angoisseux amours embrasés, ô le ressort qui me conduit. Par une nuit obscure ardente d'un amour plein d'angoisse, ô l'heureuse fortune. En secret sous le manteau noir de la nuit, sans être aperçu ou sans que je puisse apercevoir aucun des objets de la vue, n'ayant ni guide, ni lueur que la lampe ardente de mon cœur. Voilà, Abraham va marcher. Voilà. Et dans cette marche, eh bien, il va, dans cette foi, on peut découvrir cette liberté que lui communique sa relation à Dieu. Et avec ce passage un peu connu, cette grande prière d'intercession, lorsque Dieu veut détruire la ville de Sodome, Abraham va marchander la fuite de son neveu, déjà Lot, avant la catastrophe. Et voyez, non que Dieu change d'avis, mais plutôt que par la prière, nous entrons dans son champ, et qu'en entrant dans son champ, bah, nous découvrons cette liberté, cette action de Dieu et cette réciprocité en lui qui existe. Voilà. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur, lui demande Abraham. Peut-être y a-t-il 50 justes. Voilà. Et il va descendre, vous savez, jusqu'à 10, mais en réalité, un seul suffit, rapporte le prophète Jérémie en annonçant Jésus. Il y a un seul juste, vraiment juste, c'est Jésus. Et je cite la prophétie de Jérémie. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur ces places si vous découvrez un homme qui pratique le droit, qui recherche la vérité. Alors, je pardonnerai à cette ville, dit le Seigneur. La prière qui rend libre et qui donne, en nous ajustant à Dieu, d'entrer, oui, dans une intercession qui est comme le propre dialogue en Dieu, le propre dialogue divin, le propre conseil divin, qui n'est que celui de l'amour. Et on pourrait dire changer de regard, mais parce que c'est la manière dont, vous savez, on dit souvent, c'est un peu grossier, mais on dit souvent le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu du Nouveau Testament, parce que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu vengeur qui tue les Baals et compagnie, voilà. Mais en fait, c'est le même Dieu. Mais c'est peut-être nous qui sommes introduits par Jésus dans sa communion, et nous comprenons autrement ce qu'il est et son action, l'ardeur de son amour. Quand il est question d'haïr quelqu'un d'une haine parfaite, comme il y a cette expression dans un psaume, on comprend bien que c'est le mal. Voilà. Indépendamment du fait du genre littéraire, etc. Vous voyez, lorsqu'on est dans la prière comme introduit dans ce conseil de Dieu, et qu'on s'ajuste à lui, et que sa parole, voilà, elle est d'abord reçue comme la sienne, et en pleine confiance, et alors on va y découvrir un sens nouveau. Et on peut, voilà, on a certainement nous-mêmes fait l'expérience de textes connus, parole connue qui nous provoquait, qu'on a gratté, gratté, puis un jour on a une lumière. On peut dire à ceux qui viennent à l'étude de la parole de Dieu le samedi matin, on se pose la question, quelquefois on a des textes difficiles. Finalement, qu'est-ce que ce texte, que ce soit la lecture ou l'évangile, qu'est-ce que ce texte nous dit de bon? En quoi c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Foi, cheminement d'Abraham qui va le conduire jusqu'à la nuit de la foi. On peut se demander qu'est-ce que ça apporte à Dieu et à nous d'ailleurs d'inviter Abraham à sacrifier son fils. Pour dire, ça n'apporte pas grand-chose, surtout que finalement ça n'aura pas lieu. Peut-être, ça nous révèle quelque chose à nous aujourd'hui sur la foi. Jusqu'où elle va? C'est pas pour que nous devenions fanatiques, et parce qu'on pourrait dire, attention, si on peut tirer sur la parole de Dieu, on pourrait dire, attends, Dieu il a dit qu'il fallait tuer mon fils, je tue mon fils. La parole de Dieu, on la lit dans la tradition de l'Église, et surtout dans la cohérence de toute l'Écriture. Il n'y a qu'une parole en son fils, et il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Donc quand il y en a une, il faut gratter. Il faut essayer de comprendre. Et là on voit, d'ailleurs avant de lire la ligature d'Isaac, au chapitre 22, vous voyez, il y a eu 10 chapitres entre l'appel d'Abraham et le chapitre 22. Il y a eu tout un cheminement. Et donc, dans la foi, nous on parle un peu vite de l'obscurité de la foi, mais bien souvent nous en sommes qu'au début. Dieu nous prend par la main et on y va doucement, et il y va doucement, mais il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Comme je vous disais, les appuis, tous ces signes de postérité qu'a eu Abraham, tous ces prodiges que Dieu a agi, sur lesquels il a pu s'appuyer au début, petit à petit ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Et finalement, il va lui retirer même le signe de son action, puisque Isaac, c'était un enfant né fruit d'un miracle. Sarah ne le croyait pas, elle a même ri. Et ce miracle, ce signe de la puissance de Dieu, il veut lui retirer. Vous voyez, Abraham, là où il en est, demeure dans la foi en la parole de Dieu. Ça nous indique un peu jusqu'où nous sommes invités dans ce cheminement de dans ce cheminement de foi. Voilà. Alors, je vous disais, on entre dans un temps un peu d'approfondissement en prenant un peu ces figures relire rapidement. Vous pourrez les relire. Là, c'est le chapitre 12 à 22 du livre de la Genèse. Finalement, c'est assez simple. Vous avez vu les quelques rappels que j'ai fait sur Jésus, c'est pas très 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 compliqué. Mais on va aussi approfondir notre manière de faire oraison ensemble, et nous allons prendre un temps d'oraison maintenant, un vrai temps d'oraison silencieux. Je vais pas l'introduire ni le couper. Si je vais l'introduire en m'arrêtant de parler, mais vous allez pouvoir vous-même entrer dans la prière, soit en prenant un texte parce que vous l'avez amené, soit en fouillant dans les tiroirs de votre mémoire, soit en révoquant la figure d'Abraham, ou pourquoi pas une autre, voyez, un autre événement, par exemple de la vie de Jésus, où on va prier, qu'importe. Et en essayant, vous voyez, de nous y attacher. Peut-être on a un appui, et je pense que c'est pour ça que c'est important de s'y exercer ensemble. On pourrait aussi dire, maintenant on va rentrer chez nous, et puis on va faire oraison chez nous, puisque c'est une prière personnelle. Mais voilà, on a l'appui aussi de l'exercice de nos frères. Encore une fois, la prière personnelle n'est pas la prière individuelle, et donc, si ce temps nous éprouve, on peut aussi tout simplement par nos yeux, voir celui ou celle qui est à côté de moi, voilà, et qui prie, et qui rame peut-être, qui part à la guerre, comme dirait Nicolas Truff. Voilà, hein, et donc je vous propose que nous prenions 40 minutes peut-être, hein, 40 minutes, il faut augmenter un petit peu, 40 minutes de prière, enfin, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout, mais moi je vous invite, et puis on terminera ensemble en priant le Notre Père, voilà, priant un enfant de Dieu. Mais peut-être avant, il y a peut-être quelques questions. Non, pas de... Alors après, je pourrais répondre à quelques questions près du petit buffet. Alors, je vais juste regarder la question de la date. Donc j'y pense. Voilà, donc en avril, le premier mercredi d'avril, c'est mercredi saint. Donc du coup, ce sera le deuxième mercredi du mois d'avril, le 11 avril. Mais en revanche, c'est le 2 mai qui n'aura pas lieu, tout simplement parce que je ne peux pas l'assurer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un jour férié, non, voilà. Donc on aura une rencontre en avril et une rencontre en juin. Voilà.